BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous J'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Allez, 18h, soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business jusqu'à 20h en direct. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Alors dans l'actualité ce soir, ça se corse pour les grandes plateformes de crypto-monnaie, hein, puisqu'après Binance hier, c'est Coinbase qui est désormais dans le viseur des autorités boursières américaines. Bah ouais, ça y est, les régulateurs se lève pour contre-attaquer. On va vous raconter tout ça, bien sûr, dans un instant.
Et puis, on parlera aussi de cette étude qui est sortie aujourd'hui et qui affirme, chiffre à l'appui, que les milliardaires sont moins imposés que les autres contribuables. Alors, évidemment, c'est une étude qui va relancer bien des débats au moment où l'on reparle, justement, de la taxation des hauts revenus.
C'est pas très opportun, comme on dit, comme instant. On verra ça dans un instant. Et puis, alors, grande question, dans quel état d'esprit sont les dirigeants des patrons de PME? C'est le cabinet ARC, cabinet de recouvrement, qui sort son dernier baromètre, qui nous dit, c'est clair, 71% des petits patrons ne voient tout simplement pas leur activité croître dans les 6 prochains mois. Alors, c'est le patron du cabinet ARC, Denis Bosset, qui sera avec nous dans 10 minutes pour en parler. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
Et tout de suite, c'est le journal.
Good evening business, le journal.
Donc oui, les taux qui commencent à se resserrer depuis 24 heures autour des grandes plateformes d'échange de crypto, puisqu'après Binance hier, on apprend que le gendarme de la bourse américaine vient d'entamer une action en justice contre Coinbase, autre acteur majeur. On va en parler au téléphone avec Raphaël Bloch, qui est avec nous quelques instants. Bonsoir Raphaël, merci d'être avec nous, cofondateur et rédacteur de The Big Whale. En quelques mots, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de cette double offensive des autorités américaines en l'espace de quelques heures, Raphaël? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, alors effectivement, alors, je ne sais pas si le plaisir est forcément le terme adéquat, surtout effectivement pour les entreprises visées, mais effectivement, comme vous l'avez rappelé, en l'espace de 24 heures, donc deux des plus gros acteurs de la planète, hein, des plateformes d'échange de crypto-monnaies, donc sont la cible de la SEC. Il faut juste avoir en tête une chose, c'est que ce sont deux dossiers bien différents.
Oui.
Binance est un acteur mondial. Effectivement, dans la plainte qui est tombée hier de la part de la SEC, il y a 13 infractions. Il y a du pénal, il y a des éléments qui concernent le dirigeant. Enfin voilà, le dossier est assez lourd. Et là, aujourd'hui, ce qui concerne Coinbase, alors qui est une entreprise américaine cotée à Wall Street, là, si vous voulez, on est sur quelque chose d'un peu plus circonscrit en termes, j'allais dire, d'ampleur du dossier, parce que Coinbase est poursuivi tout simplement parce que eh bien les crypto-monnaies qu'il propose à la vente eh bien sont considérées par la SEC, et c'est un débat qui est récurrent aux États-Unis, sont considérés comme des titres financiers. Et donc, Coinbase aurait dû, à ce titre, parce que donc il propose des titres financiers, être enregistré comme un émetteur de titres financiers. Or, oui, comme vous le savez, Coinbase est enregistré comme eh bien une plateforme de crypto-monnaie.
Oui.
Donc finalement, c'est pour ça que voilà, Coinbase se retrouve poursuivi par la SEC.
Rien de commun, on vous entend Raphaël, mais néanmoins au-delà de ça, on sent qu'il y a un climat politique qui a beaucoup changé autour des cryptos depuis quelques mois, peut-être depuis la chute de FTX finalement, dont le patron avait réussi à se faire à Miami en quelque sorte avec l'establishment financier. On sent que le climat a changé quand même aux États-Unis.
Tout à fait, et c'est effectivement le point le plus important, qui est celui du contexte finalement politique et économique. Effectivement, FTX, hein, la chute de cette plateforme crypto-monnaie en novembre 2022, donc il y a maintenant pas loin d'un an, a été un énorme choc parce que son fondateur, donc Sam Bankman-Fried, était quelqu'un de très proche des autorités. Il était même tellement proche qu'il était sollicité pour la rédaction des futurs textes sur les crypto-monnaies. Donc ça a été un gros choc aux États-Unis.
Ouais.
Et on sait que depuis, le régulateur veut reprendre la main et essaye effectivement de mettre de l'ordre dans un écosystème qui en a évidemment besoin, et depuis donc quelques mois, on voit que tous les acteurs sont concernés.
Le Congrès, apparemment, le Congrès patine un petit peu, hein, Grégory. Raphaël, pardon, ce qu'on voit aujourd'hui.
Oui.
Le Congrès américain patine.
Non, tout à fait. Alors, ça, c'est aussi pour d'autres raisons. C'est que, tout bêtement, les actifs financiers sont compliqués à définir. Hein. Il a fallu des décennies pour savoir ce qu'est un titre financier. Eh bien, pour les crypto-actifs, c'est un peu la même chose. Et donc, vous avez, au gré des majorités, des influences politiques, des élus qui prennent le parti ou non des crypto-monnaies. Donc, ça met du temps. Et on le voit bien, finalement, c'est la SEC qui... et puis, c'est un peu la culture américaine qui, finalement, elle-même, par l'enforcement, prend des décisions et, on va dire, crée la loi par les décisions qu'elle applique envers le secteur.
Et qui est en train d'organiser cette régulation bon an, ban an. Merci beaucoup Raphaël, merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. Hein. Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur de The Big Well avec nous en France, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elle est en train de se terminer à Paris, le cortège arrive place d'Italie. On ne connaît pas encore les chiffres de mobilisation, la CGT parle de 300 000 personnes qui auraient défilé dans la capitale. On attend bien sûr les chiffres des autorités désormais. 18h05 en France toujours, les pilotes de ligne sont en colère puisque le principal syndicat de la profession, le SNPL, a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Bonsoir Jean-Baptiste Huette.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey.
Ça portait pas sur des revendications salariales, mais ils s'inquiètent de la montée en puissance des programmes d'intelligence artificielle dans leur propre cockpit. Ça, ils aiment pas les pilotes, hein, apparemment.
Ah, vous voyez venir. Hein. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Oui, mais peut-être plus qu'un seul. Et c'est ce qui pose précisément un problème au SNPL, hein, ouais. Le principal syndicat national du pilote de ligne en France. Depuis plusieurs années, les constructeurs d'avions, Airbus en tête, introduisent à bord des appareils de l'informatique qui est de plus en plus performant. Très récemment, on a vu apparaître, par exemple, le démonstrateur, le programme Dragonfly. Imaginez un avion capable de prendre le contrôle en cas de malaise des pilotes, de se détourner tout seul en cas de problème météo, de communiquer avec le contrôle aérien seul, d'atterrir seul et de regagner son point de parking seul. Voilà qui donne des sueurs froides aux pilotes et ils ont justement voulu le faire savoir quelques jours avant le salon du Bourget. Les pilotes, aujourd'hui, ils sont deux à bord d'un avion. Chacun veille l'un sur l'autre, hein, ce qu'on appelle le check crossing. On s'interroge, le SNPL s'interroge, est-ce qu'une intelligence artificielle serait capable de poser un avion sur la rivière Hudson à Manhattan, comme on l'a vu il y a quelques années? Comment réagit l'intelligence artificielle face à l'imprévisible? Les passagers aussi, vont-ils accepter de monter dans un avion qui est piloté par un pilote et un copilote informatique? Non, nous dit le SNPL, hein, qui a brandi pour l'occasion un sondage Odoxa. 80% des Français interrogés sont réservés sur cette question. Non, pour le SNPL, la montée en puissance de ces IA n'est qu'une question de business au détriment de la sécurité, je cite. Dans l'aviation, conclut le syndicat, le maître mot, c'est la redondance. Deux moteurs, plusieurs génératrices, les ordinateurs doublés, alors pourquoi pas de pilotes?
Et ce sont les pilotes qui le disent, voilà, pourquoi pas de pilotes. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business. En France, la Ligue de foot professionnelle très optimiste pour le prochain appel d'offres des droits TV sur la période 2024-2027. Pour la Ligue 1 et la Ligue 2, elle espère récupérer aux alentours du milliard d'euros lors de l'appel d'offres qui aura lieu à l'automne. C'est son patron Vincent Labrune qui l'a annoncé ce matin dans le journal L'Équipe. Et puis, toute autre chose pour terminer, à Chicago, c'est la fin aujourd'hui du grand rassemblement des professionnels de l'oncologie. Les Big Pharma ont présenté à cette occasion leurs dernières innovations en matière de lutte contre le cancer qui est, disons-le comme ça, le premier marché mondial pour le secteur de la pharma aujourd'hui. Hélène Cornet.
Les résultats sont souvent qualifiés d'impressionnants ou de révolutionnaires. S'il faut se méfier des effets d'annonce, beaucoup de présentations sont porteuses d'espoir pour les malades du cancer, comme ce traitement d'AstraZeneca qui réduit la mortalité de 50% pour les patients atteints du cancer du poumon, ou le vaccin personnalisé contre le cancer de la gorge de la biotech alsacienne Transgène. Un véritable bond en avant permis par les récents travaux dans l'immunothérapie ou les anticorps conjugués. L'oncologie, un domaine sur lequel se positionnent tous les laboratoires, même ceux qui n'avaient jusqu'à présent jamais réellement misé sur cette aire thérapeutique comme Servier. C'est devenu la priorité stratégique des Big Pharma. Les ventes anticancéreux pourraient dépasser les 300 milliards de dollars en 2026, selon les prévisions du spécialiste des données de santé IQVIA. On a connu un pic d'innovation dans les maladies cardiovasculaires dans les années 2000. Les années 2020 seront celles des innovations contre le cancer.
Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18h09. On va sur les marchés. Les marchés, Étienne Braque à Euronext pour BFM Business. Bonsoir Étienne, on termine. Oh, quasiment inchangé, c'est pas passé grand chose hein, sur cette séance.
Oui, séance particulièrement calme. Après une baisse d'1%, on a un CAC 40 qui grappille 0,1%, le tout avec des volumes d'échange particulièrement faibles. 7209 points pour le CAC 40, avec notamment cette annonce surprise cette nuit de la Banque d'Australie qui a relevé ses taux alors que c'était pas attendu. On verra ce qui va se passer demain du côté du Canada, puisque la Banque du Canada va communiquer. Mais on voit quand même des marchés qui sont sur le qui-vive, qui sont prudents. Souvenez-vous, hier, Christine Lagarde qui disait que pour l'instant, rien ne permettait de dire que le pic d'inflation était passé. Le tout à 10 jours de la réunion de la BCE. Et puis bien sûr, dans une semaine, vous aurez la Fed qui va communiquer. En attendant, vous avez Publicis qui gagne gagne plus de 3,5%. C'est de loin la plus forte hausse du CAC 40 avec le groupe qui se renforce aux États-Unis avec une acquisition dans le e-commerce. Ça permet au titre de retrouver les 72 euros ce soir à la clôture. Et l'indice parisien qui clôture donc en légère hausse, plus 0,1% au fixing, 7209 points. Et le pétrole qui redescend un petit peu après la réunion de l'OPEP+, qui a provoqué une hausse du Brent hier, 76,20 $ pour un baril de Brent.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à mi-séance, évidemment. Le Dow Jones qui, en ce moment, est en léger repli, moins 0,1%, 33 531 points. Et puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui grappille à les 0,4%, 13 285 points. Tout ça à la mi-séance, bien évidemment. 18h11, c'est l'heure de notre première invité tout de suite dans Good Evening Business.
Good Evening Business, l'invité.
C'est la grande question qu'on aime bien poser. Qu'y a-t-il dans la tête des patrons, des petits patrons, évidemment?
Alors en ce moment, des choses pas très réjouissantes, me semble-t-il.
Apparemment. Denis Le Bossé, bonsoir. Bonsoir. Président bonsoir. Du cabinet ARC, cabinet de recouvrement des impayés, qui nous accompagne musicalement tous les jours en publicité sur BFM Business. Oui, vous publiez votre baromètre sur la perception qu'ont les chefs d'entreprise de l'avenir économique du pays. C'est pas très rose, hein? Vous avez 71% des patrons de PME-TPE que vous avez interrogés qui vous disent tout simplement « je ne prévois pas de croissance de mon activité du tout au cours des 6 prochains mois ». Est-ce qu'on est dans une période de sinistrose caractérisée?
Il est vrai que les dirigeants d'entreprise ne présagent pas d'une croissance de leur activité au cours des six prochains mois. Ouais. Pour autant, nous ne sommes pas dans le vent de panique qui a soufflé lors de la période Covid.
Oui.
Ça, c'est évident. Mais aujourd'hui, c'est vrai que vous avez une certaine morosité ambiante qui est évidente. Les acteurs économiques, aujourd'hui, se fondent sur le climat français et international, qui n'est pas réjouissant.
Qui n'est pas,
vous avez d'une part une hausse du coût des matières premières et de l'énergie, la guerre en Ukraine qui perdure, les taux d'intérêt qui continuent d'augmenter et puis l'inflation qui n'est pas jugulée.
Hein, oui, alors après, le coût des matières premières, justement, et le prix de l'énergie commence à baisser, mais on va y revenir. Alors, sans comparer, en effet, à 2020, aujourd'hui, on a quand même quasiment 30% d'entre eux qui disent qu'ils ne pourront pas faire face à leurs échéances de remboursement de créances. Donc, ça veut bien dire que la trésorerie va finalement rester vraiment au cœur des préoccupations des dirigeants d'entreprise, et ça veut dire peu de croissance, donc des risques accrus, toujours en matière de trésorerie.
Tout à fait. Et ce qu'on remarque sur le terrain, c'est un resserrement des octrois de crédit.
Oui.
Les conditions financières,
en plus,
les garanties exigées par les banques sont de plus en plus importantes. Donc vous avez un resserrement des octrois de crédit, avec une inquiétude aussi sur le fonctionnement des assureurs crédits.
Oui.
49% des entreprises constatent un resserrement des conditions accordées par des encours qui sont réduits. Donc ce qui fait que l'entreprise doit payer, qui n'a plus de garantie, doit payer comptant sa marchandise. Donc effectivement, on est dans une situation qui n'est pas simple pour
assez inconfortable. Et les délais de paiement que vous suivez au jour le jour, comment est-ce qu'ils évoluent dans ce contexte? Est-ce que ça empire? Est-ce que c'est stable pour l'instant, Denis Lopez?
Eh bien, écoutez, face à cette situation, la solution pour les TPE et les PME, et pour certaines grandes entreprises, mais elles sont moins touchées, mais la solution pour les TPE et les PME, c'est effectivement d'allonger les délais de paiement. Les délais de paiement deviennent une variable d'ajustement. Donc on ne va pas dire qu'au niveau national, on a un allongement des délais de paiement. C'est pas le cas, mais aujourd'hui. Mais c'est une variable d'ajustement utilisée par les TPE et les PME.
De plus en plus comme variable d'ajustement.
Nous,
par rapport aux études que vous faites fréquemment,
alors,
vous sentez que là,
les études que l'on fait fréquemment le démontrent. Et au sein de notre activité, on le constate au jour le jour, puisque d'une part, les grandes entreprises recherchent à réduire les délais de paiement et à anticiper la gestion du cash avant l'échéance.
Oui.
Et ça, c'est une demande récurrente à laquelle nous répondons par nos outils d'intelligence artificielle qui nous permettent d'effectuer des relances prédictives en fonction du profil payeur des entreprises et des clients de nos clients. Donc en fait, on est face à cette demande. Et puis d'autre part, on le voit avec une augmentation des procédures collectives, des procédures de sauvegarde.
On va en parler dans un instant. Mais avant ça, est-ce que les plans de trésorerie ne sont pas quand même en train de se détendre un petit peu au regard justement des baisses des matières premières et des baisses du coût de l'énergie?
Alors, on a une légère baisse des matières premières. Une légère baisse de l'énergie. Néanmoins, Le manque de matières premières, parce qu'on a eu un manque de matières premières qui est en train de se réguler, peut-être un peu, mais il y a toujours un manque de
matières premières. On n'en est toujours pas sorti.
Et face au manque de matières premières, les entreprises reconstituent des stocks pour pouvoir répondre à la demande de leurs clients. Ouais, donc une reconstitution des stocks nécessite forcément du cash pour financer ce stock. Ouais. Et donc on altère encore la trésorerie.
Vous parlez d'assureurs crédit. Alors, les inquiétudes aussi par rapport aux banques. Vous dites 55% des patrons que vous avez interrogés tablent sur un désengagement prochain des établissements bancaires vis-à-vis des TPE-PME qui n'ont pas encore remboursé leur PGE. Est-ce qu'on a peur que les banques lâchent les petits? Voilà, finalement. Bah, j'ai l'impression que c'était déjà une crainte que vous exprimiez il y a quelques mois.
On le vit au quotidien. Les banques sont là, effectivement, mais les garanties sont nécessaires. Et la solvabilité de l'entreprise et les garanties à apporter sont nécessaires pour obtenir des financements, et notamment le financement de besoins de trésorerie. Les entreprises ont besoin de financer leur trésorerie.
Il y a un changement de ton des banques là, en l'espace de quelques mois.
Il y a une politique de sécurisation des banques.
Et alors, d'après vous, est-ce qu'il va falloir encore accompagner les entreprises sous forme de PGE?
Je ne pense pas. La fin du...
Ça, c'est terminé.
Est terminé.
Ouais.
Et d'ailleurs, on va vers une augmentation des dépôts de bilan. C'est vraiment notre quotidien. On voit une augmentation des dépôts de bilan qui est due notamment à la fin du quoi qu'il en coûte.
Ouais.
C'est évident. Et beaucoup d'entreprises ont été protégées durant la crise Covid. Et puis, on sort de cette...
Mais alors, donc, finalement, est-ce qu'on n'a pas maintenu sous assistance respiratoire des entreprises qui auraient dû fermer finalement il y a 12-18 mois?
Si vous voulez, tout ce qui a été mis en place a permis de protéger tellement d'entreprises qui le méritaient que effectivement à côté, certaines entreprises qui auraient certainement dû déposer le bilan ont été protégées. Par ailleurs, ça représente quelques milliers d'entreprises par rapport
aux
dizaines de milliers qui ont été sauvées.
Et est-ce que vous pensez que la Banque de France devrait être plus sévère à l'encontre des entreprises qui affichent des retards de paiement assez significatifs? Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre sanctionner ceux qui abusent et tenir compte d'un contexte qui n'est pas forcément facile, même pour les entreprises?
Elle est déjà sévère, non?
La sévérité est mesurée, puisque aujourd'hui, on n'a que le name and shame pour sanctionner les entreprises, et des amendes administratives, bien sûr. Pour sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les délais de paiement.
Est-ce que c'est efficient, le name and shame? Est-ce que c'est efficient pour vous?
C'est efficient, mais ce qu'il faudrait, c'est que le name and shame, ce qui ressort de notre baromètre annuel, c'est que la cotation, qu'il y ait une cotation des délais de paiement, que ce soit publié sur les bases de données. C'est ce que plébiscite la majorité des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore possible.
Et qu'est-ce qui bloque alors? Pourquoi ça ne se fait pas?
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour connaître une entreprise qui a été sanctionnée, il faut être un explorateur. Allez sur le site de la DGCCRF, vous pouvez essayer, c'est vraiment une vraie exploration. Donc, qu'est-ce qui manque? Pourquoi ne figure pas sur les bases de données, les bases d'informations commerciales, les entreprises qui ont été sanctionnées? Ça, c'est un vrai sujet.
Vous avez la réponse à cette question. Vous savez, est-ce que c'est trop sensible politiquement?
Peut-être que les entreprises ne souhaitent pas apparaître sur les sites, les bases de données.
Mais est-ce que quand même sur le sujet des faillites, on n'est pas tout simplement en train de revenir à des niveaux d'avant Covid?
Ah bon, on va revenir au niveau d'avant Covid, c'est sûr.
Mais pas plus, c'est ça.
Peut-être un peu plus, mais on a un rattrapage. Mmh. On va avoir un rattrapage. Mais on n'est pas face à un mur de faillite tel qu'il a été. Parce que tout a été amorti, si vous voulez. Toutes les dispositions ont été prises. On l'a vu au moment des boulangers, le problème du surcoût de l'énergie, ça a été amorti assez efficacement.
Donc vous dites pas de tsunami, c'est un petit peu dans le discours. Il nous reste 30 secondes, Denis Le Bossé, une question sur la facturation électronique, parce qu'il y a une date, c'est juillet 2024, alors ça nous paraît loin, mais c'est dans un an, sauf que vous dites, oui c'est demain, mais vous dites aujourd'hui, beaucoup d'acteurs ne sont pas dans le mouvement de ce point de vue.
Beaucoup d'acteurs ne sont pas dans le mouvement, c'est une préoccupation des entreprises, ça ressort du baromètre, 55% des entreprises sont assez inquiètes. 2024, c'est la réception des factures.
Oui.
Et l'émission pour les grands groupes. Mais 2026, c'est les TPE et les PME qui devront émettre les factures. 1er janvier 2026.
Oui, oui.
Or, là, vous avez encore aujourd'hui des TPE et des PME qui sont sur le terrain et facturent encore avec Excel. Donc, tout le monde n'est pas passé au logiciel comptable et à l'expert comptable. Donc là, c'est une préoccupation des experts comptables parce qu'ils vont être en première ligne pour pouvoir répondre aux attentes de leurs clients.
Ça va commencer à s'énerver donc au printemps 2024. C'est comme ça que ça va se passer.
C'est
comme ça que ça se passe.
Bon, le message est passé en tout cas. Donc passons à la digitalisation.
Absolument. Il faut accélérer. Les échéances sont ainsi faites. Merci beaucoup, Denis Le Bossé.
Merci beaucoup. Merci de passer
nous voir, le président du cabinet Arc, cabinet de recouvrement des impayés, avec nous ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup.
Merci.
beaucoup d'être passé nous voir. 18h20.
C'est l'heure du grand débat, Guillaume. Alors, on va parler de beaucoup de sujets ce soir. Évidemment, France Travail, hein, puisque le projet arrive demain.
On va parler de France Travail. La journée d'action contre les retraites.
14e journée.
La 14e journée. Peut-être la dernière, hein, si on en croit Laurent Berger. Et puis, on parlera de cette étude qui est sortie ce matin, qui tombe mal pour le gouvernement, parce qu'il le dit très clairement, les milliardaires sont moins imposés que certains autres.
Ça tombe mal, surtout pour les hauts revenus.
Oui, ça tombe mal, effectivement.
Tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h24, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h sur BFM Business avec Audrey Tcherkov.
Rebonsoir.
Bonsoir, Muriel Motte est avec nous. Bonsoir Muriel.
Bonsoir.
Journaliste à l'Opinion. Hervé Novelli est avec nous. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ancien secrétaire d'État en charge du commerce, de l'artisanat et des PME. Et Michel Sapin est avec nous. Bonsoir Michel Sapin.
Bonsoir.
Ancien ministre de l'Économie et des Finances. Donc, était-ce le champ du cygne, comme disent certains, 14e journée d'action contre les retraites aujourd'hui, la réforme des retraites. Premier chiffre qui commence à tomber, hein, 30 000 personnes à Paris d'après les autorités, 300 000 d'après la CGT.
Le ratio habituel.
C'est le ratio habituel. Question, les syndicats ont-ils vraiment encore l'ambition de faire bouger les lignes? C'est pas sûr finalement.
C'est pas sûr, d'autant que Laurent Berger semblait tout à l'heure prendre date pour d'autres combats ultérieurs. On écoute tout de suite.
Cette mobilisation, elle est à la fois pour continuer à exprimer un fort mécontentement du monde du travail sur cette réforme des retraites, mais elle est aussi pour montrer le rapport de force qui est le nôtre depuis début janvier, c'est-à-dire du mouvement syndical, pour peser sur tous les éléments de la vie des travailleurs et travailleuses. Et on sait qu'au-delà des retraites, dont le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non, avec cette inconnue de ce qui se passera jeudi à l'Assemblée nationale, la question du pouvoir d'achat, la question des salaires, la question du logement, la question des conditions de travail, de l'évolution du travail, la question de la protection sociale vont être des questions centrales dans les semaines et les mois à venir. Et si on veut peser, il faut qu'on montre qu'on est fort. Et c'était aussi un peu l'objectif de cette journée.
Voilà, lui-même semble reconnaître, c'est un peu la fin du match désormais, Laurent Berger quand même.
Oui, en effet. Alors d'un côté, les syndicats et les oppositions comptaient aujourd'hui vraiment sur la rue, justement pour faire pression. Vraisemblablement, c'est le champ du cygne pour les opposants du texte à la réforme des retraites. Mais au-delà de ça, la situation actuelle, elle pose quand même beaucoup de questions, notamment sur le respect de nos institutions, parce qu'il faut quand même parler de cette réunion de l'Assemblée nationale qui a eu lieu il y a quelques jours en salle de commission des affaires sociales et qui avait pour objet justement d'examiner le fameux amendement Liotte, qui visait à supprimer précisément la réforme des retraites. Ça s'est fait dans un brouhaha infernal, dans une ambiance qui était survoltée. On ne savait plus de quoi on parlait. La NUPES a quitté la salle et je suis très inquiète de l'appauvrissement de la qualité de notre débat démocratique.
Est-ce qu'il est temps de siffler la fin du match, comme le dit, pas comme dans ces termes, mais Laurent Berger finalement, Hervé Novelli, comment est-ce que vous voyez cette séquence?
Vous avez tout à fait raison de le dire, on a le sentiment que ça s'effiloche jour après jour, semaine après semaine, et ça va se terminer. Ça va se terminer. Le problème, c'est que ça laisse un sentiment d'immense gâchis. On a réussi quand même dans ce pays à faire un psychodrame qui a mis des millions de personnes dans la rue sur une pseudo-réforme des retraites. Quand je dis pseudo-réforme, c'est une réforme paramétrique. On a reculé de 2 ans l'âge de la retraite. Basta. Appeler ça réforme, ça me semble un peu outré.
Vous appelez ça une non-réforme, en fait. Vous voulez pas le
non,
dire?
Non, parce que ça va se traduire par des gens qui vont travailler 2 ans de plus. Donc c'est pas une non-réforme. Mais la réforme, qu'est-ce que c'est? La réforme, c'est quelque chose qui change radicalement. Sinon, c'est un aménagement. On est passé de 60 à 62.
Oui, une réformette.
Et non, c'est pas une réformette, mais c'est pas, me semble-t-il, ce qu'appelle aujourd'hui le changement majeur, structurel, de l'évolution de la vie, de la durée de la vie, et donc du sentiment, en tout cas c'est le mien, que structurellement, mais tout le monde le dit, cette réforme appellera une autre réforme, parce que malheureusement ou heureusement, comme on est assis sur un seul critère, eh bien, ce critère va être obsolète dans quelques années.
Donc rendez-vous manqué en quelque sorte.
Oui, parce qu'il y avait de quoi faire une belle réforme et d'introduire enfin, et j'en termine, dans notre arsenal, l'épargne des Français pour que ceux-ci s'assurent aussi et complètent leur
donc la
leur
retraite par capitalisation. Donc,
mais bien sûr.
C'est ça. Rendez-vous manqué aussi, Michel Sapin. Vous êtes d'accord avec Hervé Novelli
là, Non, je suis pas d'accord, mais je suis pas d'accord sur le fond des choses. Je pense que la beauté du système français, c'est qu'il peut mettre de la capitalisation, mais à côté et en plus, et non pas au cœur de notre dispositif à la mode américaine, qui ne me paraît pas, assurer aux Américains, en particulier les plus pauvres, un avenir radieux lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite. Mais au-delà de ce désaccord qui ne date pas d'aujourd'hui sur un grand débat sur capitalisation ou répartition, c'est évidemment la fin d'un processus. Est-ce qu'il faut dire toujours essoufflement, effilochage, etc. Comme si c'était le même combat. C'est là encore, Laurent Berger a raison, dans toutes les nuances de son propos. Quand il dit c'est la fin d'un match, oui. Mais quand vous avez terminé un match, c'est que vous en préparez un autre. Donc c'est pas la fin d'un combat. Il le dit avec beaucoup d'intelligence, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui sont devant, qui vont nécessiter, par exemple, des négociations entre partenaires sociaux sur un certain nombre de très beaux sujets, ou qui vont nécessiter des discussions et avec des rapports de force avec le gouvernement. Et à trop dire, on va encore continuer, comme peut-être voudront le faire certains syndicats, ça affaiblirait le mouvement syndical. Donc Laurent Berger, il prend le mouvement syndical tel qu'il est, beaucoup plus fort aujourd'hui, beaucoup plus responsable, beaucoup mieux regardé par les Français, comme un acteur, y compris parfois considéré comme politique, par rapport à des débats à l'Assemblée nationale qui n'ont pas la dignité, je dirais.
Voilà, donc vous êtes d'accord sur le manque de qualité d'accord. Des échanges.
Au fond, la dignité du débat, la dignité de la démocratie, ouais. Elle s'est déportée de l'Assemblée nationale, où elle devrait être, vers les organisations syndicales. Ouais. Voilà, il prend acte de cela, et c'est vrai que c'est un grand atout pour la suite.
Muriel Motte.
Non, c'est vrai que ce qui a été surprenant, c'est qu'il y a eu 14 journées de mobilisation, et à aucun moment, sur un sujet qui est vraiment crispant, le pays n'a été complètement bloqué. Et en fait, un sondeur me disait que à chaque fois dans le passé, les présidents de la République ont été impopulaires pour un sujet et que dans ces cas-là, les Français s'estimaient trahis sur le sujet en question. Et que sur les retraites, les Français ont exprimé dans les sondages beaucoup de ressentiments, etc. Mais à aucun moment, ils ont estimé être trahis parce qu'ils avaient bien intériorisé que Macron, c'était son programme présidentiel, qu'on le veuille ou non, il avait été élu sur ce programme, qu'il allait réformer les retraites. Donc ils ont manifesté leur mécontentement, mais jamais, et il me disait, c'est vraiment une nuance, une rareté, ils n'ont estimé être trahis, ce qui est assez surprenant, mais ce qui explique aussi que peut-être dès le départ, ils étaient résignés, tout en manifestant, mais tout en sachant qu'elle aurait lieu, cette réforme.
Voilà, 30 000 manifestants à Paris, selon la CGT, 300 000 selon les organisateurs. Non, je me trompe, c'est l'inverse.
L'inverse, pardon. Et la vérité est sûrement 000. Entre les deux.
Exactement, voilà, on vous redonne les chiffres au fur et à mesure qu'ils nous parviennent, bien évidemment. 18h30, on fait une petite pause pour le rappel des titres, et puis on revient dans deux minutes.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Ça repart avec Audrey Tcherkov.
Bonsoir.
Avec Muriel Motte, avec Hervé Novelli, avec Michel Sapin. Alors, cette étude qui a fait beaucoup jaser, de l'Institut des politiques publiques. Qui, au moment où on reparle du débat sur les retraites, au moment où on veut éviter de reparler taxation des plus fortunés du côté du gouvernement, cette étude issue de chiffres de 2016, hein, faut le préciser, nous dit que d'une certaine façon, les milliardaires sont moins imposés que les autres contribuables. L'étude le dit, la grande majorité des contribuables français sont proportionnés à leurs revenus, mais forte régressivité, une fois franchi le seuil des 0,1% des Français les plus riches. Et quand on se concentre sur les 75 milliardaires que compte la France, c'est encore plus dérisoire.
Mais
en termes de taille, c'est très mauvais.
Oui, c'est sûr. Mais la conclusion, finalement, de ce rapport, elle est à la fois sans appel et en même temps sans grande nouvelle. En effet, pour les foyers très riches, on le sait très bien, l'impôt est régressif par rapport à la nature de leurs revenus, qui sont liés notamment à un grand patrimoine immobilier, à des participations dans des entreprises qui génèrent des dividendes, etc., etc. Maintenant, ce qui est intéressant, en effet, c'est que ça relance le débat qui n'a jamais été vraiment refermé, justement sur la fiscalité des très hauts revenus, dans un contexte de finances publiques ultra tendues, où on cherche de l'argent notamment pour financer la transition écologique et cette idée que les auteurs du rapport poussent de dire on devrait mettre en place une taxation à hauteur de 1,5% à partir d'un patrimoine de 50 millions d'euros, c'est en fait ni plus ni moins que ce qu'on a fait pour les multinationales.
Je rappelle que l'un des auteurs de cette étude viendra nous voir tout à l'heure à 19h20. Est-ce qu'il faut taxer les holdings comme on le fait aux États-Unis? C'est une des pistes privilégiées par les auteurs de ce rapport, Michel Sapin.
Et les grandes fortunes.
Si je voulais répondre directement, je dirais oui. Il ne suffit pas de dire oui, il faut essayer de raisonner auparavant. D'abord, vous avez raison de souligner que c'est une étude qui date de 2016. Ouais. C'est-à-dire, sous le quinquennat Hollande, c'est-à-dire après des mesures que les très riches avaient trouvées très dures pour eux. Donc après le vote d'un texte qui a été ensuite annulé par Macron, qui faisait que le revenu des capitaux était imposé comme les revenus du travail. Bon, ce qui paraît quelque chose de naturel, mais qui ne l'était absolument pas. Si on rajoute à cela les effets de la suppression de l'impôt sur la fortune, et surtout, compte tenu du type de revenu, les effets de cette imposition à 30% forfaitaire, oui, compris CSG, tout compris, parce qu'il faut mettre aussi la CSG dans cette affaire, on a aggravé. Donc les choses se sont encore aggravées. Deuxième commentaire, cette étude montre bien qu'au fond, il faut éviter de dire... plus de 4 000 euros, comme quelqu'un l'avait dit à un moment donné, à plus de 4 000 euros, on n'est pas riche. En l'occurrence, c'est quelqu'un que j'aime bien, par ailleurs. Mais même, il faut éviter le coût des 10% des Français les plus riches. Parce que 10%, dans les 10%, vous n'avez pas que des gens très riches, loin de là. On est à l'intérieur des 1% les plus riches. Donc, on voit que la France, au cours des dernières années, n'a pas cessé de concentrer sur un chiffre de plus en plus petit les fortunes, et en particulier les fortunes qui sont des fortunes qui viennent du revenu des actions. Au fond, ces fortunes qui sont peu imposées, ce sont des fortunes qui tirent leur revenu uniquement des actions.
Muriel Mott, sur cette étude, voilà.
À la fois, elle est simple et complexe à la fois, parce qu'on voit qu'il y a une grande progressivité de l'impôt sur le revenu, c'est 99,9% oui, des Français concernés, donc c'est quand même, la fiscalité française est efficace.
Et la progressivité, voilà.
Voilà, qu'il y a un problème sur les 0,1%.
Oui, 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 oui.
Ensuite, je trouve que ce qui est complexe, c'est que l'étude elle-même dit que les solutions ne sont pas faciles, que cette décroissance de la taxation s'observe dans les autres pays européens, puisque dans tous les pays européens, il y a, via les systèmes d'entreprise, puisque ce sont souvent des patrons de grandes entreprises, il suffit de voir le classement Challenge, et puis on retrouve les 75, ils sont à la tête de grandes entreprises, et que cette dégressivité s'observe dans tous les pays européens, donc c'est assez compliqué. Ils disent, si on les taxait plus, il y aurait des problèmes juridiques, si on faisait ce qui se passe aux États-Unis, il y aurait possiblement des solutions d'évitement. Ils évoquent eux-mêmes des délocalisations fiscales. Donc en fait, c'est simple et c'est très complexe à la fois.
Oui, mais en même temps, Muriel, leur proposition, pour le coup, elle est simple. De dire, on va taxer à hauteur de 1,5% les patrimoines de plus de 50 millions d'euros.
Mais écoutez, à la conférence de presse, des questions leur ont été posées et c'est plus complexe que ça. C'est plus... Ils disent à partir de combien ?
50 millions d'euros.
On est loin des
0,0002%
c'est ça le problème.
Des 75 milliards.
C'est très progressif jusqu'à un certain niveau. Et le problème, c'est pour vraiment la tête d'épingle.
Voilà.
Donc, des questions leur ont été posées sur qu'est-ce que ça rapporterait si on normalisait les choses. Déjà, normaliser, c'est complexe parce ils ne tiennent même pas compte des dividendes, ils tiennent des bénéfices non distribués sous forme de dividendes qui restent dans les entreprises. C'est complexe.
C'est
pas si simple que ça.
Hervé Novelli.
Cette étude, elle est fouillée, mais elle est fouillée sur une tête d'épingle.
Contestée par Bercy d'ailleurs.
Oui, oui. Mais elle s'adresse malgré tout à une recherche très étroite.
Oui.
Très étroite. Et j'ai envie de dire, ça sert à quoi ?
Oui.
Ça sert à quoi ? Oui. Ça sert à alimenter, et la France n'en a pas besoin, un débat anti-riche. Sauf que les riches, on ne sait jamais comment, quand on est riche. La définition du riche,
c'est cette idée sur la question comment
non, bah oui, mais Michel Sapin justement il n'a pas donné une définition du riche, il a contesté qu'on soit riche à 4000 euros. Parce que il y a beaucoup de biais dans cette étude, notamment on tient pas compte aussi de la taxation du capital. On parle des revenus. Et on fait une nouvelle définition pour les revenus économiques, mais on ne parle pas de la taxation du capital. Alors, elle a changé depuis 2016, c'est vrai. Cette taxation, les rapports de la Cour des comptes, que connaît parfaitement Michel Sapin, ces rapports du Conseil des prélèvements, montraient, il y a quelques années, qu'en France, la taxation du capital était largement supérieure à celle de l'Allemagne, par exemple. Donc, tout cela fait que je me demande à quoi ça sert, et ça alimente un débat sur les inégalités, qui est un débat très très prégnant en France, et qui laisse de côté le fait que, quand on ramène avec la redistribution, on s'aperçoit que la France est un des pays les plus égalitaires.
On dit que c'est une tête d'épingle. Oui, puisqu'on parle d'un nombre très réduit. Enfin, c'est une épingle avec un diamant dessus, hein, si je puis dire. Donc on en voit cette tête d'épingle-là. Elle est très visible. Quand on dit Monsieur Arnault est devenu la première fortune mondiale, on en fait des titres un peu partout. Donc c'est quand même très visible. Donc les Français le voient, cela. Et au même moment, ils rencontrent un certain nombre de difficultés. Enfin, en tout cas, beaucoup de Français peuvent rencontrer des difficultés où on leur demande des efforts supplémentaires pour travailler 2 ans de plus. On peut dire que c'est nécessaire compte tenu de la démographie. Enfin, il n'empêche, c'est un effort supplémentaire. Et donc, on en revient au cœur du sujet que soulignait d'ailleurs très bien le rapport de Pisani-Ferry. Oui. C'est que si on veut demander aux Français plus d'efforts, si on veut demander pour lutter contre le réchauffement climatique, pour réformer le système de santé, pour réformer le système d'éducation, si on veut demander plus d'efforts et plus d'efforts budgétaires, alors la question de la solidarité.
Oui, c'est il pas, faut demander des efforts à tout le monde.
À tout le monde. Et quel est le seul effort qu'on puisse demander à un riche ? C'est de payer un peu plus d'impôts. On ne peut pas lui demander
alors
beaucoup
d'efforts. Alors justement, précisément pour ça, Hervé, pardon, mais justement, pour rebondir sur ce que Michel Sapin vient de dire, je suis en désaccord avec vous, puisque vous dites que cette étude, elle met en exergue le désamour que l'on a pour les riches. Au contraire,
Renforcer le désamour.
Oui, alors c'est pareil. Mais au contraire, il me semble que cette étude, elle met en exergue le fait qu'on a besoin des riches pour financer le système français.
Oui, mais les riches... Regardez, lorsque François Pinault, par exemple, je prends cet exemple, achète une compagnie, on en parlait, la seule compagnie française de croisière.
Oui.
Elle allait être achetée par les Chinois. Oui. François Pinault fait qu'il y a aujourd'hui une compagnie qui a un pavillon français, la seule. Oui. Eh bien, je crois que c'est une œuvre utile qui dépasse M. François Pinault et qui est une œuvre utile pour le pays.
Oui.
Donc, il n'y a pas que les contributions... fiscale,
non, il y a un sujet de souveraineté.
On s'adresse toujours. Il y a aussi,
et de fierté.
Par exemple, des chèques. Quand M. Pinault fait un chèque, alors, un chèque de 100 millions pour Notre-Dame de Paris, personne ne l'a forcé à le faire. Moi, je préfère ces contributions volontaires aux contributions forcées dans le pays qui est le champion du monde des prélèvements obligatoires.
Muriel Motte.
Parce que quand vous, Michel Sapin, vous dites qu'est-ce qu'on peut demander aux riches si ce n'est de payer un peu
en
plus.
Termes d'efforts, en termes d'efforts.
Voilà, en termes d'efforts. Mais on peut leur demander de créer plus de richesses. Ce sont des gens qui embauchent des centaines de milliers de personnes qui créent la richesse
alors,
de la France.
Alors LVMH, en l'occurrence, est le premier employeur de France.
Non, mais c'est ça. Mais vous prenez encore une fois les 75 milliardaires, encore une fois, vous prenez le classement des 75 de Challenge. Ce sont des chefs d'entreprise qui créent beaucoup de richesses. Moi, j'attends quels impôts les milliardaires paye-t-il, quelle richesse les milliardaires créent-ils? Et on peut leur demander d'en créer plus.
Ça me permet juste une remarque, parce que c'est toujours comme ça depuis le début avec l'impôt sur la fortune. La confusion entre l'activité économique et des chefs d'entreprise qui sont extrêmement utiles, certains extrêmement innovants et qui permettent de créer des emplois, et la richesse personnelle, individuelle. Oui, vous êtes chef d'entreprise, vous agissez pour la France, vous agissez pour l'emploi, c'est superbe, mais est-ce que ça rend d'autant plus excusable le fait que vous payez moins d'impôts proportionnellement que les autres? Non, c'est deux choses différentes. Il y a l'impôt qui va peser sur les entreprises, on peut en discuter, il y a des moments où il faut savoir l'alléger, nous avons su le faire pour permettre justement de remettre la France à niveau en termes d'investissement et d'emploi, et puis il y a l'impôt personnel. Un chef d'entreprise, il est chef d'entreprise, mais il est aussi Monsieur Arnault ou Monsieur Pinault. C'est Monsieur Novelli, Muriel. Madame Mur ou Monsieur Sapin.
Oui, mais...
Ils payent des impôts. Il ne faut pas toujours confondre les deux. Quoi.
Non, mais là,
de vous faire cette.
Non, mais bien sûr, dans le revenu économique que l'IPP prend en compte, il prend en compte, encore une fois, les bénéfices non distribués sous forme de dividendes qui restent dans les entreprises. Mais ça, ce sont des sommes qui potentiellement peuvent être investies.
J'accepte tout à fait cette remarque.
Non, mais c'est pour ça. Et souvent réinvestis dans l'entreprise, en effet, pour la développer.
Quand vous les touchez, eux-mêmes.
Ben oui, mais pour faire ces calculs, le revenu économique est grossi de cette somme de bénéfices non distribués qui sont dans les entreprises et potentiellement qui peuvent servir pour des investissements.
Enfin, Audrey, pour
c'est complexe. Non, mais puisqu'on a commencé à parler des prélèvements obligatoires, rappelons quand même qu'on atteint des niveaux historiques. On est quand même à 45% en part de PIB de prélèvements obligatoires. Ça veut dire qu'on revient au niveau des années 90, on n'arrête pas de nous dire on va baisser les impôts des entreprises d'aider des ménages, mais en fait, on repasse finalement devant le Danemark. Et la question que je pose ce soir, c'est pour quelle qualité de service public ?
Eh bien, puisqu'on parle de service public,
un vrai sujet.
Puisqu'on parle de service public, on va parler dans un instant.
Le débat ce soir.
France Travail qui va remplacer Pôle emploi au 1er janvier prochain. Plus efficient, plus efficace de Pôle emploi, c'est la mission qui lui est assignée. On verra dans un instant ce que vous en pensez, bien sûr.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h49, encore quelques minutes avec nos débatteurs, avec Audrey Tcherkov, avec Muriel Motte, avec Hervé Novelli, avec Michel Sapin. Donc France Travail, demain on va voir France Travail, projet présenté en Conseil des ministres qui doit succéder à Pôle emploi au 1er janvier prochain.
Faire travailler
plus étroitement les acteurs du service public de l'emploi, donc Pôle emploi, les collectivités, les missions locales, les associations avec des systèmes informatiques interconnectés. Guichet unique pour les demandeurs d'emploi, est-ce que ce bidule pouvait être plus efficient que Pôle emploi ? C'est le rôle qu'on lui...
Alors peut-il être moins efficient ? Surtout, je ne pense pas. Savez-vous combien de recrutements sont prévus en 2023 ? 3 millions. Sachant qu'en 2022, on a quasiment 400 000 emplois qui sont restés vacants. Donc, on est dans un marché du travail qui évolue à la vitesse de la lumière, ultra tendu, pénurie de main-d'œuvre, avec des vrais sujets de fond qui ne sont pas traités, ou en tout cas qui sont maltraités, que ce soit la garde d'enfants, les sujets de formation, de mobilité. Et il me semble que ce projet est censé répondre à tout ça, et en tout cas simplifier le dispositif actuel, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a les départements qui s'occupent de l'insertion, les régions qui s'occupe de la formation et Pôle emploi qui s'occupe des chômeurs. Il faut vite changer tout ça, quoi.
Tu te rappelles un peu la fusion de la NPE et des ACDIC il y a une quinzaine d'années, ça n'avait pas pris, non ? Tu te rappelles les souvenirs, Michel Sapin, ça ?
C'est un peu différent.
Mais la NPE et ACDIC, qui a mis du temps à bien fusionner, amélioré les choses, globalement. Et donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, avec la volonté d'améliorer, on ne cherche pas à améliorer les choses. Mais je crois que je crois que vous avez bien souligné les choses. Gérer 10% ou 12% de chômeurs ou de chômage en France, c'est pas la même chose que de gérer la pénurie de main-d'œuvre. Et donc aujourd'hui, on essaie d'adapter l'outil pour permettre de répondre à ces enjeux d'aujourd'hui, qui sont quoi ? Des enjeux de formation, oui. Des enjeux de mobilité.
Oui.
Faciliter la mobilité, des enjeux parfois d'insertion au sens d'accompagnement, d'insertion d'un certain nombre de jeunes dans tel type d'emploi ou dans tel autre. Il y a parfois des enjeux d'image par rapport à certains métiers qui ont une mauvaise image alors qu'ils pourraient parfaitement avoir une image différente. Donc on voit bien qu'on est d'une autre dimension. Je disais un peu avec le sourire, on passe de France Chômage à France Travail. Oui, vous aviez à un moment donné, moi quand j'étais ministre du Travail, l'enjeu fondamental c'était d'arriver à accueillir dans des conditions correctes, à donner le plus rapidement possible l'allocation chômage parce qu'il y avait eu une augmentation considérable du nombre des chômeurs. Aujourd'hui, on est à 7% de chômage, qui est encore élevé par rapport à d'autres pays. Et donc, c'est ça. Maintenant, c'est la qualité. Il faut s'attacher à chacune des personnes, la personnalisation du service. On ne place pas de la même manière une personne qui a tel cursus par rapport à une autre personne qui a un cursus différent. Donc, plus on personnalisera, plus on permettra d'accompagner et plus on répondra à la fois aux besoins des chômeurs aujourd'hui et des jeunes et aux besoins des entreprises.
Est-ce que ça sera plus performant ?
Est-ce
que ça sera plus performant ?
Mais c'est fou parce qu'il y a un rapport qui préparait cette réforme dans lequel il était écrit noir sur blanc que l'État n'était pas capable aujourd'hui d'évaluer l'ensemble des personnes qui étaient en recherche d'emploi sur le territoire. Donc c'est, effectivement, il y a une inefficacité. Il y a
40% des bénéficiaires du RSA seulement qui sont inscrits pour l'emploi aujourd'hui. Quoi. Ça vous
non, mais c'est fou.
Alors, avec beaucoup de mamans avec des enfants, et donc si on ne traite pas en l'occurrence le sujet de la garde d'emploi, on réglera
la garde d'enfants plus que la garde d'emploi.
Oui. D'enfants, absolument.
Donc oui, on peut espérer que ce soit un peu plus efficace parce que là, on part de très très loin. Puis ça va quand même avec une réforme du RSA, avec toutes les inefficacités, inefficiences du RSA qui est à chaque fois pointée par la Cour des comptes, qui nous donne des chiffres invraisemblables. Donc ça ne peut aller que mieux quand on entend que je crois que c'est un quart des versements du RSA qui comportent une erreur.
Oui.
Certains n'en reçoivent pas alors qu'ils devraient en percevoir, que le nombre d'erreurs a doublé, que les contrôles sont... Tout ça va de pair pour essayer de mettre plus de gens au travail.
Est-ce qu'on répare un peu les tuyaux percés dans cette histoire, Hervé Novelli ?
Vous savez, moi j'étais au gouvernement lorsqu'on a créé Pôle emploi. J'étais sous le gouvernement du président Sarkozy. Et comme l'a dit Michel Sapin, on est aujourd'hui en 2022 et ça marche. Il a fallu 10 ans, 10 à 12 ans. Donc c'est long. Et je me méfie des grands machins. Parce que là, il y avait une cohérence, d'une certaine manière, à fusionner. pour créer Pôle emploi. Aujourd'hui, mettre les attributaires du RSA, la formation, tout ça dans une grande maison commune.
Ce qu'on nous vend, c'est le guichet unique aussi, voilà.
Ah oui, mais les guichets uniques sont souvent des guichets supplémentaires. Et c'est ça le drame dans notre pays. On crée un guichet unique pour simplifier, mais comme on ne supprime pas les guichets précédents, on a un guichet supplémentaire. Moi, je me méfie de la grande maison. On avait créé les maisons de l'emploi.
Oui,
c'est vrai.
Ça, c'est un peu similaire. C'est l'idée de tout regrouper dans un
En même temps, Hervé, dire qu'on veut un interlocuteur privilégié plutôt que 25 guichets qui répondent à la moitié de notre problème,
oui, mais
c'est plutôt du bon sens.
Oui, mais votre interlocuteur privilégié, est-ce qu'il sera compétent pour traiter, je reviens à ce que disait Michel Sapin, sur l'accompagnement fin de celui qui est chômeur de longue durée, de l'attributaire du RSA qui va être réintégré dans cette nouvelle entité que sera France Travail. Bref, je suis assez non pas sceptique, mais en tout cas attentif à ce que ça va donner. Je suis pas sûr que on ait vraiment un Big Bang qui résoudra tous les problèmes.
Mais il y a des tests en cours. Il y a des tests en cours.
Absolument. 18 départements
d'emploi.
Ouais.
Donc, faut voir.
Oui, il faut aussi rappeler que 7 recrutements sur 10 en France se font dans des entreprises de moins de 10 salariés qui souvent ne sont pas équipés avec des super DRH qui peuvent comprendre la complexité du système. Donc, il faut absolument simplifier le back-office.
Bon, vous avez peur du grand machin, oui. Michel Sapin, pour terminer, vous aussi, ou pas?
Il ne faut pas un grand machin. Écoutez, j'ai peut-être tort, mais je fais confiance aux responsables de Pôle emploi d'aujourd'hui pour préparer France Travail de
voilà,
demain.
Voilà, l'optimisme
gagne
le plateau, Guillaume.
Je donne un bon point au gouvernement, ça ne m'arrive pas souvent.
Oui,
je le fais.
On le prend.
Le cas.
Disons que... C'est pas là que j'aurais donné le bon point.
Mais... vous l'auriez donné où?
Mettez-vous le bon point.
Il y a d'autres
sujets où
la politique du gouvernement peut produire de bons effets, notamment en matière de baisse du chômage.
Ouais.
Donc, est-ce qu'on va aujourd'hui accélérer et baisser pour atteindre le plein emploi grâce à ça?
Objectif 5% fin du quinquennat. Hein.
Persuadé.
5% objectif.
Moi, mon bon point, ce serait pour les efforts de réindustrialisation du pays.
Ah.
Mais t'as un bon point, Michel Sapin, ou pas au gouvernement?
Alors, il a déjà mis son bon point.
Moi, je suis tout prêt à mettre des bons points sur des efforts.
Il en a
fait des bons points sur les résultats. Donc, sur ce point, j'attends, au-delà des discours sur la réalisation.
Oui, mais vous dites, je veux voir.
Donc, il n'y a pas de bon point à ce terme. Voilà, c'est ça le message.
Mais sur la réindustrialisation, en deux mots. J'ai regardé de très près, puisque je suis très proche du président de la Brioche Dorée, Louis Le Duf, qui a baissé les bras, parce que ça fait 10 ans. Il attend pour construire une usine en Bretagne, tout simplement parce qu'on a des procédures en France qui ont été, dont
qui
le
va
temps
partir
a
au
été
Portugal,
doublé en 2017 par une procédure publique environnementale qui s'est rajoutée à l'enquête administrative. Et donc là, oui, il faudrait simplifier tout ça, parce que sinon la réindustrialisation...
Ouais. C'est en cours, c'est la promesse du gouvernement.
Discours un peu schizophrénique, mais on s'en est fait l'écho, on en a parlé ici même.
Discours un peu schizophrénique, c'est vrai, hein, parce que...
Voilà.
Les questions environnementales m'ont l'air d'occuper aussi une place dans le débat politique.
C'est compliqué.
Oui.
Allez, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup à tous d'être venus. Muriel Motte, journaliste à l'Opinion, Hervé Novelli, ancien secrétaire d'État en charge du PME, des PME, du commerce et de l'artisanat, et Michel Sapin, ancien ministre de l'Économie et des Finances. Merci beaucoup à tous les trois. À très vite avec plaisir sur BFM Business, 18h57.
Le débat est à retrouver, Guillaume, comme tous les soirs. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et on se donne rendez-vous tout de suite pour le rappel des titres.
Le jour. Et puis on va reparler de cette étude de l'Institut des politiques publiques privées. Puis on sera avec numéro 2 de l'UNSA pour voir un petit peu comment s'est passée cette journée d'action sur le terrain, la 14e. Peut-être la dernière, on lui posera la question.
A tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.